Alors, on va peut-être y aller. Je vous rassure tout de suite, on devrait réussir à finir dans les temps. Déjeuner, c'est important. Bien, dans le cadre de la formation, donc sur la description, l'indexation, le partage et la mutualisation des ressources pédagogiques numériques, Gérard Vidal m'a demandé de vous présenter les thésaurus et de répondre à trois questions qui sont pourquoi, pour qui et comment. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas une professionnelle de l'indexation. Simplement, dans le cadre de ma discipline qui est la biologie, on dira les sciences de la vie, j'ai contribué à la construction d'un thésaurus, justement dans la perspective de l'indexation de ressources numériques. Et ce que mon intervention d'aujourd'hui est en fait destinée un petit peu à vous faire partager l'expérience qu'on a vécue et qu'on vit toujours d'ailleurs de conception de ce thésaurus. Alors, en préalable, je voudrais rappeler la définition d'un thésaurus. La définition la plus connue, reconnue, est celle qui est donnée par la norme internationale, alors ISO 2788-1986, qui donne en fait les principes directeurs pour l'établissement et le développement des thésaurus. Donc selon cette norme, le thésaurus, c'est un vocabulaire d'un langage d'indexation contrôlé, organisé formellement, de façon à expliciter les relations a priori entre les notions, par exemple les relations génériques spécifiques. Certains d'entre vous doivent connaître ça bien mieux que moi. Le langage d'indexation étant un ensemble contrôlé de termes choisis dans une langue naturelle et utilisé pour représenter sous forme condensée le contenu de documents. Ces définitions veulent bien dire ce qu'elles veulent dire, mais elles ne sont pas forcément très claires pour le néophyte. Concrètement, si on essaye de traduire un petit peu ça, un thésaurus, c'est un vocabulaire normalisé, contrôlé, c'est-à-dire un ensemble de termes qui sont définis par un groupe de spécialistes. C'est un vocabulaire qui est organisé sous forme hiérarchique, c'est-à-dire que on a des termes génériques qui contiennent un certain nombre de termes spécifiques. On a une hiérarchisation des termes qui correspond en général à une spécialisation. Les termes spécifiques sont plus spécialisés que les termes génériques. Quand on hiérarchise un vocabulaire, on passe en fait d'un simple vocabulaire contrôlé à un vocabulaire dit organisé. Et puis un thésaurus, c'est aussi un système qui associe entre eux les termes de sujets connexes. Ça permet d'élargir, d'enrichir en quelque sorte le thésaurus. Quand on recherche un terme, on peut trouver aussi les termes de sujets connexes qui y sont associés. Concrètement, un thésaurus contient donc un certain nombre de termes, termes génériques, termes spécifiques qui sont choisis, ce qu'on appelle dans le langage ad hoc les descripteurs. Il comporte également un certain nombre de termes synonymes, de termes équivalents, qui ne sont pas choisis, qu'on appelle les noms descripteurs. Et ces termes sont reliés entre eux, par des relations hiérarchiques, les descripteurs, c'est la hiérarchie du thésaurus, par des relations d'équivalence, les synonymes des descripteurs, donc les descripteurs, les non-descripteurs, et par des relations d'association entre descripteurs qui permettent d'enrichir le thésaurus. Pratiquement, un thésaurus ainsi conçu, c'est un outil qui permet l'indexation d'un document. On peut répertorier le document à l'aide de mots-clés qui sont extraits du thésaurus. Et c'est aussi un instrument de recherche qui permet de trouver un document à partir des mots-clés qui sont hiérarchisés dans le thésaurus. Alors, on va reprendre un petit peu ce que vous a expliqué Gérard pour préciser le contexte dans lequel nous avons travaillé. Pourquoi un thésaurus ? Eh bien, ce que vous disait Gérard, c'est que la généralisation de l'outil informatique, en particulier dans les pratiques pédagogiques, a conduit à la constitution de nombreuses ressources pédagogiques numériques, qui sont très diverses à plusieurs points de vue, diverses d'abord du point de vue de leur nature, c'est-à-dire que les ressources pédagogiques numériques peuvent être des textes, peuvent être des images, peuvent être des vidéos, des sons, pourquoi pas. Du point de vue de leur format aussi, c'est ce qu'évoquait Gérard tout à l'heure, vous pouvez rencontrer des images au format JPEG ou autre, des textes au format Word, donc .doc ou OpenOffice. Vous pouvez rencontrer des pages HTML, donc le format HTML, du format PDF, etc. Ces ressources pédagogiques numériques sont aussi diversifiées en termes de degré de complexité. On peut trouver des documents simples, formés d'une seule image, ou des documents plus compliqués, des albums d'images, des ensembles d'images, par exemple. On peut trouver des objets simples comme des textes, ou des documents plus complexes qui intègrent du texte et des images, etc. La diversité des ressources numériques, c'est aussi la diversité des auteurs. Pour ce qui nous concerne, pour les ressources pédagogiques numériques, les auteurs, ce sont des enseignants ou des équipes enseignantes. Ce sont aussi des étudiants ou des groupes d'étudiants. Ce sont des chercheurs, éventuellement, ou autres. Les utilisateurs sont également diversifiés. Alors, on retrouve dans les utilisateurs les mêmes que les auteurs. Les utilisateurs peuvent être des enseignants, des équipes enseignantes, des étudiants, des équipes d'étudiants, voire des chercheurs, peuvent être également des élèves. Et puis, évidemment, ces ressources sont diverses du point de vue des thèmes abordés. Si on considère ma seule discipline, la biologie, les sciences de la vie, elle est composée d'un nombre assez conséquent de sous-disciplines. La biologie peut s'intéresser, par exemple, à l'échelle des molécules, aux molécules. Elle est alors biologie moléculaire. Elle peut s'intéresser à l'échelle des cellules. Elle est alors biologie cellulaire. À l'échelle des organismes, elle est biologie des organismes, etc. Et évidemment, les ressources pédagogiques sont très diverses, comme la discipline finalement de laquelle elle relève. Alors, un grand nombre de documents, une grande diversité, il est très vite apparu évident qu'il faut disposer d'un système qui permet de rechercher et surtout de retrouver efficacement une ou plusieurs ressources, bref, de gérer ces ressources. Le problème est un petit peu le même que chacun d'entre nous rencontre sur son ordinateur avec ses multiples fichiers de multiples formats. Simplement, l'échelle, là, n'est pas la même. Et donc, on se place dans un contexte de trouver, mettre en place un dispositif de gestion des ressources. Alors, comme pour la gestion de tout fonds documentaire, la gestion des ressources pédagogiques numériques, elle nécessite de regrouper les données qui sont relatives aux documents, d'organiser ces données, de les rendre utilisables. Et dans cette perspective, pour chaque document, pour chaque ressource, il faut identifier les informations qui sont utiles, qui permettent de décrire le document ou la ressource et qui peuvent ensuite servir pour le retrouver. Ça, c'est la définition de l'indexation. L'indexation, c'est l'identification des aspects significatifs d'un document afin de les utiliser comme clé pour rechercher ce document. Alors, traditionnellement, dans les bibliothèques en particulier, on fait de l'indexation de plusieurs façons. D'abord, sur la base des, on va dire, des références, le nom des auteurs, les titres, etc. C'est ce qu'on appelle le catalogage en langage de bibliothèque. Et puis, à côté de cette indexation par les références, il y a une indexation par le biais de mots-clés, de classification thématique, Hein, c'est ce qu'on appelle l'indexation matière. Alors les classifications thématiques, elles peuvent être de diverses natures. En particulier, elles peuvent être disciplinaires, mais elles peuvent être aussi pédagogiques ou encore autres. Alors, dans le cas particulier de ressources numériques, les données les informations qui permettent de repérer un document, une ressource, constituent ce qu'on appelle des métadonnées, donc des données qui servent à définir, à décrire une donnée, les données sur les données de Gérard tout à l'heure. Et ces métadonnées, elles peuvent être indépendantes du document, un petit peu à la manière de ce qu'on trouvait dans les bibliothèques il y a très très longtemps. Il y avait des petites fiches qui décrivaient chaque ouvrage et qui étaient classées alors par auteur pour certaines, par thème pour d'autres, etc. C'est un petit peu la même chose pour ce qui nous intéresse. Les métadonnées sont en quelque sorte des notices d'accompagnement des ressources pédagogiques numériques. L'un des intérêts de ces métadonnées, c'est qu'elles peuvent être utilisées pour repérer n'importe quel type de fichier. Je pense en particulier aux images, aux vidéos qui ne contiennent pas de texte et qui ne permettent pas de faire des recherches de mots-clés dans le texte intégral. Et donc au final, la solution qui a été adoptée pour ce qui nous concerne a été l'indexation des ressources pédagogiques numériques par le biais de métadonnées. Alors, une étape essentielle dans cette démarche, c'est de définir les métadonnées qui sont utiles, qui sont nécessaires, qui sont indispensables à une indexation efficace des ressources pédagogiques. Et c'est dans ce contexte, dans notre cas, la définition de ces métadonnées s'est inspirée du standard LOM, ce qui signifie Learning Object Metadata, les métadonnées décrivant des objets pédagogiques. Ce standard a été développé par ce qu'on appelle l'I3E, l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, et elles sont véritablement ces métadonnées dédiées finalement à des ressources pédagogiques. Une réflexion s'est engagée autour de ce standard pour le traduire, pour définir le vocabulaire à employer et évidemment pour l'adapter aux exigences et aux usages français. Et ces travaux ont été entrepris dans la perspective d'une normalisation. Il semble évident que si tous les utilisateurs emploient les mêmes métadonnées, le partage des métadonnées et évidemment des ressources décrites s'en trouve facilité. Alors, le LOM et le LOMFR comportent un certain nombre de rubriques que je vous ai listées, que nous n'allons pas détailler puisque vous allez avoir demain une description précise de ces différentes rubriques. Bon, elles sont classées, donc les métadonnées en métadonnées générales, c'est le nom de l'auteur, le titre, etc. En cycle de vie, ça décrit la version, l'état de la version de la ressource. En métadonnées, métadonnées sont des métadonnées sur les métadonnées qui permettent en fait de préciser qui a renseigné les métadonnées en particulier. Dans le LOM, une rubrique est aussi consacrée aux aspects techniques. Elles permettent de décrire le format, la taille de la ressource, les exigences techniques qui y sont associées. Vous avez une rubrique de métadonnées pédagogiques qui définissent le public cible, le niveau, la difficulté de l'utilisation de la ressource. Une rubrique sur les droits qui permet de dire s'il existe un copyright, par exemple. Une rubrique relation qui permet de signaler l'existence de relations entre une ressource et d'autres ressources. Une rubrique commentaire qui permet de commenter. Et surtout, ce qui va nous intéresser, une rubrique classification. Alors, cette rubrique classification, elle a pour objectif finalement de répertorier la ressource numérique dans une classification donnée. Et la rubrique classification comporte plusieurs, on va dire, champs. Un premier champ qui est un appelé objectif, qui est, permet de préciser finalement l'objectif du classement de la ressource, de dire à quel type de classification on s'adresse. Il peut s'agir de classification disciplinaire, il peut s'agir de classification basée sur les idées, sur les compétences, etc. Vous avez un deuxième ensemble de champs qui est traduit un peu maladroitement sans doute par chemin de taxon. Cet ensemble de champs permet de situer la ressource dans un système de classification. C'est là que vous indiquez que vous utilisez tel système de classification, tel thésaurus, en l'occurrence, et que vous donnez la liste des termes qui permettent de décrire le document dans la classification. Puis vous avez encore quelques champs complémentaires, un champ description de la ressource, en relation avec l'objectif du classement, et puis un champ qui permet d'introduire des mots-clés. Donc, cette rubrique classification, elle permet de caractériser la ressource de façon complémentaire par rapport aux autres rubriques du L'Homme et Faire, et elle est particulièrement importante parce qu'elle est en fait à la base de la recherche des ressources pédagogiques, en particulier de la recherche thématique disciplinaire des ressources pédagogiques. C'est là que le contenu d'une ressource est décrit en termes de fond. Alors, pour permettre une indexation, une recherche des ressources basées sur les thèmes disciplinaires, c'est cette rubrique-là qu'il faut remplir, et il est essentiel de disposer d'un thésaurus qui permette de renseigner les champs de taxon. Alors, ce qu'on peut noter à propos de cette rubrique classification et qui est important, c'est que pour une même ressource, dans un même ensemble de métadonnées, il est possible de répéter plusieurs fois à l'intérieur de la rubrique classification le champ chemin taxon, et puis les noms, les champs taxons qui sont en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il est possible de proposer une classification de la ressource dans plusieurs systèmes de classification. Vous pouvez repérer chaque ressource dans plusieurs systèmes de classification différents. Alors, sachant dans quel contexte nous allons utiliser finalement le thésaurus, il est nécessaire, avant de proposer l'outil, de commencer à réfléchir à la manière de le concevoir, de définir les utilisateurs de cet outil. Les utilisateurs, ce sont d'une part les auteurs, d'autre part le public. Alors, les auteurs sont les personnes qui produisent les ressources pédagogiques. Ce sont les enseignants, on l'évoquait tout à l'heure. Alors, les enseignants peuvent proposer dans le cadre de leurs activités, en particulier des exercices, des corrections, des présentations de cours, des préparations ou des comptes rendus d'activités, etc. Des images aussi d'objets observés en séance, ou alors des documents qui sont utilisables par d'autres enseignants pour construire leurs activités. Les chercheurs proposent en général des présentations de leurs travaux, et les étudiants, ce qu'ils proposent le plus souvent, ce sont des comptes rendus de leurs activités, des travaux bibliographiques, des fiches d'activité, des choses comme ça. L'autre catégorie d'utilisateurs, c'est le public. Les auteurs sont les personnes qui vont produire les documents, éventuellement les indexer. Le public, ce sont les personnes qui vont rechercher les ressources l'utiliser, vont les utiliser éventuellement. Et ce public, bah, c'est, on y retrouve les enseignants, les chercheurs, les étudiants. On peut y ajouter les élèves, voire le grand public. Et ces utilisateurs vont employer le thésaurus dans diverses perspectives, dans la perspective d'un accompagnement des activités d'enseignement au niveau collège, au niveau lycée, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur, licence, master, préparation au concours de recrutement de l'éducation nationale, mais aussi on peut travailler dans une perspective de transfert et de diffusion des connaissances. Donc finalement, on a la production d'un ensemble de ressources pédagogiques numériques qui doivent être classées en utilisant le thésaurus et qui ont la particularité d'être de niveau diversifié, niveau de base à un niveau pointu, et qui ont des vocations variées. Donc, la définition d'une part des utilisateurs, d'autre part des usages, et enfin du cadre dans lequel on travaille, permet de préciser les différents aspects qui doivent apparaître dans le thésaurus. Et en l'occurrence, ce qui apparaît clairement, c'est que le thésaurus doit comporter des aspects disciplinaires généraux d'abord et un petit peu plus précis ensuite, et aussi des aspects didactiques et pédagogiques qui permettent de décrire en fait la perspective un petit peu dans laquelle les ressources sont produites, en termes de transfert et de diffusion des connaissances en particulier. Alors quand les besoins, les objectifs, les usages, les utilisateurs sont définis, il faut commencer à travailler et à définir finalement les acteurs de la conception d'une part et la manière dont ces acteurs travaillent. Pour ce qui nous concerne, nous avons constitué un groupe de travail chargé de mener à bien la conception du thésaurus. C'est le cœur du dispositif. Ce qu'on peut en dire, c'est que ce groupe de travail ne doit pas comporter un nombre trop important de membres. On était deux. Sur les deux autres thésaurus qui ont été créés, il devait être trois à chaque fois, je crois. Ça facilite la discussion, ça facilite les échanges, ça facilite le travail. Et les personnes qui sont impliquées dans la constitution du thésaurus doivent être des personnes qui maîtrisent la discipline et qui surtout en ont une vue globale, surtout si le thésaurus doit être un thésaurus général. Accessoirement, il faut un peu de bonne volonté, un peu de naïveté pour accepter ce genre de travail sans savoir de quoi il retourne, mais c'est un challenge intéressant. Autant le groupe de travail doit être limité, autant il doit s'entourer de collaborateurs aussi nombreux que nécessaires. Ces collaborateurs sont de trois catégories. D'abord des spécialistes disciplinaires, parce que pour un certain nombre de domaines, on a besoin de précision, d'une assistance pour le développement d'aspects disciplinaires très, très spécifiques, très particuliers. Ils peuvent être aussi des spécialistes de la documentation. Les spécialistes de la documentation sont d'une aide précieuse pour répondre aux questions techniques sur la construction, la cohérence des thésaurus. On s'en est rendu compte a posteriori. Et puis, également des informaticiens. Les informaticiens ont la capacité de répondre à des questions d'ordre technique, parce que le thésaurus en question va être utilisé dans le cadre d'une indexation informatisée, et les informaticiens savent ce que les systèmes informatiques peuvent faire ne peuvent pas faire, et de ça dépend aussi un petit peu la conception du thésaurus. Évidemment, en dernier lieu, des échanges doivent être réalisés avec les utilisateurs. Alors, en relation avec cette organisation, la procédure à adopter est la suivante. Le Thésaurus est conçu, constitué par le groupe de travail. Il est soumis à la validation par les collaborateurs. Suite à la validation, en général, il y a quelques corrections à apporter. Et puis ensuite, il est proposé à un groupe restreint d'utilisateurs qui testent son intérêt, sa facilité d'utilisation. Et à la suite de ce test, il peut être optimisé avant d'être développé, enfin lancé à plus grande échelle. Ce dont il faut prendre conscience à ce stade, c'est que les corrections et les optimisations peuvent se poursuivre pendant une période qui est relativement longue. Alors le travail du groupe de conception, comment l'organiser ? Ben, nous avons travaillé de la façon suivante. Dans un premier temps, nous avons examiné, alors j'ai mis les thésaurus existants en fait, surtout un thésaurus existant. Ce que vous disait Gérard tout à l'heure, nous l'avons constaté, il y a un grand nombre de thésaurus qui ont été développés. Ils sont conçus pour les bibliothèques, ils sont conçus pour les gouvernements, ils sont conçus par des ministères, des gouvernements, des organisations supragouvernementales. Et la première chose qu'on se dit, c'est que s'il en existe, ce serait dommage de ne pas profiter de ceux qui sont déjà conçus, s'ils peuvent convenir. Ceci dit, il y en existe tellement qu'il est quasiment impossible de faire une étude exhaustive de tous les thésaurus existants sur une discipline. Et puis leur multiplicité, elle tend à prouver que à chaque besoin spécifique, on a créé un thésaurus. Et a priori, ça laisse à penser que on a défini des objectifs qui sont très précis. Et on risque bien de ne pas trouver un thésaurus qui nous convienne. Alors pour ce qui nous concerne, on est surtout allé regarder le thésaurus de l'UNESCO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. On se dit que leurs préoccupations étaient plus tard. C'est bien. Que les préoccupations de l'UNESCO pouvaient être relativement proches des nôtres, et donc on avait des chances de trouver quelque chose qui nous convenait. Alors on est allé regarder ce thésaurus de l'UNESCO, et pour deux raisons majeures, il nous a semblé ne pas être très efficace pour remplir nos objectifs. La première raison, c'est que nous souhaitions avoir un thésaurus pour l'ensemble de la biologie et des sciences de la vie. Et l'UNESCO propose 8 micro-thésaurus, 8 subdivisions, qui sont approches scientifiques, ressources naturelles, biologie, sciences naturelles, sciences médicales, etc. Et vous voyez tout de suite un problème. On veut, nous, un thésaurus pour la biologie qui regroupe tout ça, y compris le micro-thésaurus intitulé « Biologie » dans le thésaurus de l'UNESCO. Il y avait une absence d'adéquation en fait en termes de vocabulaire ou de subdivision disciplinaire, je ne sais pas trop. Dans notre conception biologie et sciences de la vie, ils sont équivalents, mais pas dans la conception du thésaurus de l'UNESCO, ce qui vous montre l'une des difficultés majeures de la construction des thésaurus, c'est le choix du vocabulaire et surtout le choix d'un vocabulaire consensuel, le problème des définitions des termes. Et puis à côté de ça, dans le thésaurus de l'UNESCO, à un même niveau de subdivision, on va trouver des noms de disciplines, biologie cellulaire, physiologie, et des noms d'objets biologiques au sens large du terme, cycle de vie. Et ce mélange des genres, en quelque sorte, c'était quelque chose que nous ne trouvions pas optimal. Et donc, du coup, on a décidé que le thésaurus de l'UNESCO pouvait nous être utile en tant que liste de vocabulaire, mais pas en tant qu'architecture, et on s'est dit que la solution, c'était de produire notre propre thésaurus. Alors, la conception d'un thésaurus, ça passe par plusieurs éléments importants. D'abord, la définition de ses caractéristiques, le choix de ses grandes orientations et la détermination des descripteurs. Le thésaurus, il faut le voir comme une arborescence qui est constituée de ramifications successives. Et cette arborescence avec ses ramifications successives représente en quelque sorte la hiérarchie du thésaurus. Et les nœuds, chaque point de ramification, sont identifiés par des termes qui sont de plus en plus précis au fur et à mesure qu'on s'éloigne du tronc. Alors, le thésaurus que nous devions construire devait être utilisé pour une indexation informatisée de documents numériques, chaque ressource étant identifiée par les termes situés au nœud de l'arborescence, les termes en question pouvant être pris dans différentes ramifications, différentes branches. Donc, à l'inverse, la recherche du document, elle peut être faite à partir des termes qui identifient les nœuds, mais pris aussi dans différentes branches de l'arborescence. Alors, en relation avec cette caractéristique-là, la redondance est acceptée, c'est-à-dire qu'un même terme peut se trouver dans différentes branches, différentes ramifications, à différents niveaux. Ça, c'est rendu possible par l'informatisation. C'est très utile. Autre aspect de la définition des caractéristiques, la définition du nombre de niveaux, du nombre de ramifications successives. Alors on s'est dit tout de suite que le nombre de ramifications devait être raisonnable, parce qu'on conçoit bien qu'il est fastidieux de développer, de subdiviser, de resubdiviser, de re-resubdiviser pour arriver aux termes les plus précis. La difficulté, c'est que plus le nombre de niveaux est limité, plus la classification est imprécise. Ce qui, on le sait, mais ça ne nous aide pas pour définir a priori le nombre de niveaux. Et vous allez voir que c'est une question récurrente. On savait bien qu'il fallait un nombre de niveaux raisonnable, on ne savait pas combien, et on ne sait toujours pas combien d'ailleurs. Mais bon, on commence à avoir des idées un petit peu plus précises sur la question. Un deuxième aspect de la conception proprement dite du thésaurus, c'est le choix des grandes orientations. En l'occurrence, on a choisi d'aller du général au particulier. Hein, c'est des choses globales vers les choses qui sont plus détaillées. C'est de toute façon le principe des relations hiérarchiques d'un thésaurus. On a choisi aussi de privilégier les objets biologiques, le terme objet étant pris dans un sens très général, de privilégier donc les objets biologiques par rapport aux disciplines qui étudient ces objets biologiques. C'est-à-dire qu'on a prévu dans un endroit du thésaurus de faire une liste de disciplines, mais ce ne sont pas les disciplines qui règlent notre organisation. Et on a choisi également de privilégier les aspects fonction, description aux aspects systématiques. Vous savez que l'une des prérogatives des sciences de la vie, c'est de classer les êtres vivants. Très schématiquement, on va dire, il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a des virus, il y a des bactéries. Alors, quand on veut étudier une fonction, comme la nutrition, par exemple, il y a deux solutions. Soit on va, dans le thésaurus, classer les êtres vivants, animaux, végétaux, bactéries, virus, et à chaque fois mettre nutrition dedans pour arriver à animaux, nutrition, etc. Soit on va mettre nutrition et par ailleurs on va mettre les éléments de classification. Et dans ce cas-là, on ira chercher à nutrition et éventuellement ensuite, dans un deuxième temps, sur la base de la systématique. Eh bien, c'est cet aspect des choses qu'on a décidé de privilégier. Quand je vous dis on a travaillé sur les fonctions, la description, au dépens finalement des aspects systématiques, c'est qu'on a fait apparaître d'abord ces objets-là plutôt que la classification. Alors, pourquoi ces grandes orientations ? Simplement parce que ça présente une certaine originalité par rapport à une présentation traditionnelle, on va dire, des sciences de la vie. Et on s'est dit que tant qu'à créer un thésaurus, c'était peut-être pas la peine de faire simplement une variation sur des thèmes existants. C'était plus intéressant de faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc ça, c'était la première raison. Et puis la seconde raison, c'est que ces grandes orientations, elles permettent de construire un thésaurus qui est plus transversal, plus synthétique que les thésaurus basés sur la vision classique de la discipline. Et vu que derrière, on a un système d'informatique, d'indexation et de recherche, ça ne posait pas de problème. C'était très bien. Il faut évidemment ensuite définir les descripteurs qui vont permettre d'identifier les nœuds de l'arborescence, définir les descripteurs, savoir si on les met au singulier ou au pluriel, hein, pour pouvoir ensuite construire le thésaurus. Alors, le résultat, quel est-il ? Nous avons utilisé un logiciel de construction de cartes conceptuelles qui s'appelle FreeMind, qui est un logiciel libre, qui est très très facile d'utilisation et qui offre des fonctionnalités très utiles pour ce qui nous intéressait là. Et vous voyez, on se retrouve avec un thésaurus des sciences de la vie qui comporte 11 subdivisions, micro-thésaurus, qui sont l'organisation des êtres vivants, l'information génétique, le développement de l'organisme, les fonctions, l'environnement, l'évolution, les biotechnologies, les pathologies, la santé humaine, l'approche scientifique et l'approche didactique et pédagogique. Alors là, on va essayer d'aller voir un petit peu ce que ça donne avec FreeMind. Voilà. On peut essayer d'analyser un petit peu, donner les grandes caractéristiques de ce thésaurus. Alors voilà, vous voyez que FreeMind vous permet de construire des arborescences de ce type-là qui peuvent être développées ou remballées. Et quand on développe les différents niveaux, les différents micro-thésaurus, pardon, on se rend compte que dans la plupart des cas, on a entre 4 et 6 niveaux en moyenne, ce qui semble raisonnable, mais c'est déjà compliqué. Hein. Vous voyez, 2, 3, 4, 5, 5 à 6 niveaux. Bon, 4 à 6 niveaux en général. Ça donne des choses qui sont déjà compliquées. Il y a des exceptions, on y reviendra tout à l'heure sur ces exceptions. Si on le regarde de façon un petit peu plus précise, où on se rend compte qu'il n'y a pas de redondance majeure dans l'état actuel, mais ça peut venir avec les évolutions. Par contre, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés au départ, il y a quelques petites choses qui ne sont pas très satisfaisantes. Dans la rubrique environnement, par exemple, vous avez une rubrique qui s'appelle « Sciences de l'environnement écologie », subdivisée en écologie fonctionnelle, écologie évolutive, écologie comportementale et écotoxicologie, qui sont des disciplines. Donc à droite, à gauche, il y a des disciplines qui sont cachées alors qu'on voulait vraiment se baser sur les objets. Mais ça s'explique aussi par le fait qu'on n'a pas travaillé tout seul sur cette question-là, d'une part, et puis par le fait que, étant préoccupé par, ayant d'autres occupations, on a connu des périodes de travail sur le thésaurus, puis des périodes d'arrêt, puis des périodes de reprise, et au moment de la reprise, on ne fait plus attention forcément à tout ce qu'on avait défini. Donc, on se retrouve là avec un outil qui est ce qu'il est, et à l'aide de cet outil, on peut réaliser des indexations et réaliser des recherches. Alors, cet outil s'appelle JAE. Si c'est Gérard Vidal qui lui a trouvé son nom. Donc Gérard vous parlait d'un certain nombre de dispositifs qui permettent de réaliser des indexations sur la base de métadonnées. Parmi ces dispositifs, il en est un qui est un site internet qui s'appelle Cinématique. Cinématique, ça veut dire Centre d'indexation et d'édition de métadonnées pour l'éthique. Et sur ce site, on peut créer des métadonnées. Ça se présente de la façon suivante. Une métadonnée, voyez, vous avez des onglets qui correspondent aux grandes rubriques du LOM. La rubrique générale, cycle de vie, métadonnées, techniques, pédagogie, droit, relations, commentaires. Et la fameuse rubrique classification. C'est typiquement le genre d'outil à ne pas montrer, à montrer quand on veut faire peur, on va dire, parce que comme ça, de prime abord, c'est assez abscon. C'est pas trop difficile d'utilisation, mais c'est pas l'outil le plus simple, en l'occurrence. Donc vous avez ici l'onglet classification, certes. Dans l'onglet classification, vous pouvez choisir... Ah, c'est lui qui plante. C'est cinématique qui plante. Vous pouvez choisir dans l'onglet classification plusieurs classifications successives, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et à l'intérieur de chacune de ces classifications, définir un chemin taxon, donc dire le thésaurus utilisé d'une part, et puis d'autre part, donner... Ça risque d'être un petit peu compliqué là, hein, on n'y voit pas grand chose, voilà, on n'y voit plus rien. Et pouvoir définir ensuite les taxons. Donc vous avez chemin taxon, vous lui indiquez quelle source utiliser, et puis ensuite vous donnez les valeurs, les noms des descripteurs successifs que vous utilisez. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut continuer. On va quitter celle-là. Est-ce qu'il va vouloir quitter ? Super. On va le fermer. Peut-être qu'on retrouvera un affichage correct, mais peut-être pas. Je ne sais pas, on verra bien ce que ça va donner. Et inversement, donc de cette façon-là, vous pouvez indexer vos ressources. Et inversement, vous pouvez rechercher... des ressources. Alors, vous avez possibilité de réaliser des recherches simples, des recherches avancées ou des recherches qui sont des recherches thématiques. Ça doit être celle-là, la recherche thématique. Des recherches thématiques. Dans les recherches thématiques, vous avez les trois thésaurus qui sont présents, dont le JAE. Est-ce qu'il va bien vouloir me l'afficher ? Voilà. Qu'on peut développer. Et par exemple, on peut sélectionner un mot dans l'arborescence et puis demander de rechercher. Aucun résultat. Il n'en veut pas, celui-là. Alors, pourtant... on avait voilà donc sur un mot vous trouvez toutes les références qui sont indexées et vous pouvez afficher donc soit directement le site, la ressource en ligne, soit la description, et la description vous retrouvez une fiche finalement avec tous les champs LOM qui ont été renseignés. Mais celle-là est relativement compliquée. Alors là, vous cherchez par l'intermédiaire d'un seul descripteur, à l'intérieur, on va dire, d'un thésaurus. Vous pouvez, dans la recherche avancée, dans la rubrique descripteur, rentrer une chaîne de descripteurs qui va vous chercher sur les différents. Tout à fait, tout à fait. Si, si, tout, si, 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 si. je l'ai pas. Voilà, ce que j'avais là, là, ça vous envoie directement voir sur le document. Maintenant, je commence. Je me méfie par contre de ce que ça va faire à la machine. Donc, vous avez le lien vers le document et la fiche descriptive LOM, telle qu'elle a été indexée. Voilà. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir. Ah oui, ça ne va pas le faire là alors. Il va falloir qu'on le referme. Je ne suis pas dans le panneau de configuration, affichage. Il ne va pas en vouloir. Il refait la même que l'autre fois. Input signal out of range. Par contre, j'ai pas la le mot de passe de l'ordinateur. On va le relancer. J'ai oublié que j'étais attachée. Il y a peut-être des incompatibilités. Est-ce qu'il se relance? Non. Ouais. Non, il veut plus se relancer carrément là. Donc on saura que. Il n'en veut pas ce coup-ci. Dans 6 secondes, ce système s'autodétruira, c'est ça? Non, mais là, il n'y a rien. Non, mais c'est pas ça. Ah, d'accord. J'ai pas ça à l'écran. Ah, c'est lui qui va pas. Je suis pas sûre. L'écran d'en bas qui ne veut pas. Donc, ouais, mais cet écran-là ne fonctionne plus.
Ah oui, donc il faut regarder. Ah oui, s'il était déconnecté, je crois.
Non, il n'a pas été déconnecté. Non, tout à l'heure, il fonctionnait. Il ne le reconnaît pas.
Il y a une compatibilité avec cinétique et
cinématique.
Cinématique.
Non, mais ça. Mais par contre, on peut peut-être le paramétrer. Ouais, le petit écran ne fonctionne plus. Il y a, c'est curieux parce que. Bon, il s'est travaillé. Ah non, à mon avis, récupération de documents. Qu'est-ce qu'on fait? On restaure ou quoi? Comme ça, on finira parce qu'il n'y aura plus rien. Input signal out of range. Non, il capte rien. Voilà, alors. Est-ce qu'il le voit? Non. voit pas le disque. Il voit pas le... Yes. Si ça marche.
C'est bon, c'est vrai.
Donc là, je vais vous tourner un peu le dos le temps de tout lancer. Alors, nous en étions bien plus loin. Bien. Donc, cinématique fonctionne, mais pas toujours. On va dire ça comme ça. Mais c'est quand même un outil qui permet de retrouver au moins des choses. Alors, un certain nombre de questions se sont posées, et plus ou moins de façon récurrente, au cours de la conception de notre thésaurus. Ces questions, elles concernent le nombre de descripteurs, le nombre de niveaux, finalement, le degré de précision du thésaurus, et puis elles concernent aussi les limites, les relations avec les autres thésaurus. Pour ce qui concerne le nombre de descripteurs, si vous voulez, quand on regarde, je suis où ? Quand on regarde dans la branche organisation des êtres vivants, vous avez par exemple un descripteur qui est cellule avec deux descripteurs plus précis qui sont eucaryotes et procaryotes. Là, on a plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'on peut soit lister toutes les cellules connues pour que chaque auteur ou chaque personne qui indexe un document puisse y trouver la cellule dont parle son document, soit on s'arrête au niveau cellule. Alors, dans la version actuelle du thésaurus, la question elle reste posée puisqu'on en a mis trois. Des cellules eucaryotes, simplement pour se souvenir que, voilà, il fallait faire quelque chose. Il est vrai que le nombre de cellules qui sont connues, qui sont nommées, est plutôt très important. Il doit y en avoir quelques 200, plus de 200 types à l'intérieur de l'organisme humain, il me semble. Et c'est vrai que lister tout ça dans le thésaurus, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais inversement, ne pas le lister, c'est un petit peu embêtant parce que ça donne un vocabulaire qui est très incomplet et qui n'est pas quelque chose de précis. Donc l'idée qui est en train de se profiler, c'est de construire des listes de vocabulaire contrôlées, en l'occurrence, qui seront alors intégrées ou annexées au thésaurus. Ça reste à définir également. D'un autre point de vue, pour ce qui concerne le nombre de niveaux, je vous disais tout à l'heure que l'une des caractéristiques, enfin l'un des centres d'intérêt des sciences de la vie, c'est de classer les organismes, de les classer au sein d'une classification. Alors, cette classification, traditionnellement, elle n'était pas très simple, mais pas très compliquée quand même. On classait les organismes en fonction de leur ressemblance, dans des catégories hiérarchisées, en nombre fini. Sauf que la classification des êtres vivants, elle connaît un regain d'intérêt assez conséquent. Et il y a beaucoup de travaux qui se font et les règles changent. Et maintenant, la règle, c'est de regrouper les organismes, les espèces, en fonction de leur relation de parenté et sans limitation du nombre de niveaux. Alors, c'est vrai que pour le caractère, on va pas dire exhaustif, mais pour que le thésaurus soit complet, on souhaitait intégrer cette classification des organismes à l'intérieur du thésaurus. Alors, on l'a pas fait pour tout, on l'a juste fait pour un groupe, les animaux. Voilà ce que ça donne. Si vous allez chercher l'espèce humaine, elle est quelque part dans les mammifères, dans les primates, là, soit 21 niveaux plus loin que le nœud initial. Alors, on en revient à notre problème de nombre de niveaux. Vous concevez qu'effectivement, une classification qui est aussi développée que ça n'est pas utilisable. Elle n'est pas utilisable pour plusieurs raisons. D'abord parce que les personnes qui utilisent le thésaurus ne sont pas forcément au fait de la classification. Et puis ensuite parce que c'est très long de passer d'un niveau au suivant pour arriver au dernier bon niveau. Là, il y a une dualité très nette entre le degré de précision scientifique du thésaurus, d'une part, et sa facilité d'utilisation. Donc si on veut que scientifiquement la classification des organismes soit correcte à l'intérieur du thésaurus, on est obligé de faire quelque chose d'aussi développé. Si on veut que le thésaurus soit utilisable, on est obligé de faire quelque chose de plus limité. Et là, la solution que nous avons trouvée, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'on va faire une classification phylogénétique des organismes indépendante du thésaurus, une classification complète et complexe, et une classification simplifiée, également indépendante du thésaurus, puisqu'elle risque d'être quand même assez longue. Et comme il est possible, dans la norme Lemaître, d'indexer une ressource dans plusieurs classifications différentes, eh bien, les personnes qui veulent indexer une ressource pédagogique selon la thématique des sciences de la vie pourront l'indexer dans ce thésaurus-là et puis dans un thésaurus qui reprend la classification des êtres vivants. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que si on considère, par exemple, le programme des lycées, il comporte des éléments sur l'évolution, sur la classification phylogénétique. Alors, on aura deux degrés de complexité différents et on aura des choses qui permettront de raccrocher dans le thésaurus de base. Je veux dire, les primates... Alors, donc tout ça, ça va en sortir, hein, en fait, du coup. Tout ça, ça va en sortir, hein, mais si vous voulez, dans mon thésaurus, j'ai une rubrique évolution, phylogénie du vivant, arbre phylogénétique. La phylogénie du vivant, c'est l'histoire des relations, finalement, hein, de parenté entre les organismes. J'ai une rubrique arbre phylogénétique et en fait, mes classifications systématiques des êtres vivants sont des classifications phylogénétiques, sont des arbres phylogénétiques. Voilà. Donc là, on est encore à l'état de réflexion. Vous avez arbre phylogénétique et après, je me suis dit, on va faire une nomenclature, une liste de mots-clés.
Vous pouvez parler plus fort. Est-ce qu'ils doivent être signalés dans une base générale qui va confondre tous les supports depuis son lycée et donc quel lien il y aurait entre ce vocabulaire-là que vous venez de créer et un vocabulaire existant déjà et largement utilisé dans tout le système éducatif?
Il n'en existe pas, à ma connaissance.
Ah si?
Si.
Il y a un vocabulaire
parce que y a un
du monde éducatif qui s'appelle Mobis et qui est utilisé dans l'ensemble des bibliothèques scolaires.
Mais c'est l'une des questions suivantes.
Ah, d'accord.
C'est l'une des questions suivantes que c'est Gérard qui pilote ce type de projet. Effectivement, il nous a demandé de construire le thésaurus pour l'utilisation précise, qui est en fait une utilisation très globale, n'est-ce pas? Et dans la perspective de cette indexation numérisée. Et l'idée, c'est ensuite de faire les relations entre les thésaurus qui existent déjà ou les listes de vocabulaire qui existent déjà. Ceci dit, le thésaurus en question, il est intégré maintenant, paraît-il, dans les clés USB qui sont distribuées aux enseignants. Il est utilisé visiblement par le ministère dans cette perspective-là.
Il existe sur un site
X ou Y, par exemple, peuvent être ces mêmes ressources numériques, sont sélectionnées par les professionnels de l'information et documentation dans les établissements, décrites dans leur base bibliographique avec un lien qui pointe directement sur la ressource. Donc je me demandais...
Ça fait un peu double emploi, c'est ça?
Oui, ça peut être un intérêt, mais j'attendais justement de me poser la question, simplement. Oui.
Ben, c'est-à-dire que je pense que dans l'optique dans laquelle travaille Gérard, le but va être d'uniformiser tout ça, sans pour autant reprendre tout ce qui est indexé point par point. L'informatique permet de faire des relations sans trop de soucis, en fait. Mais c'est de toute façon, le thésaurus tel qu'on l'a construit là, je dirais qu'il est encore assez balbutiement. Et c'est vrai qu'il est utilisé dans un certain nombre de cas, et c'est vrai aussi qu'on prévoit des refontes. Là, on est dans une version qui est la version 0.7.04. On essaiera de sortir une version. Oui.
Ce qui serait intéressant, ce serait de voir que dans ce vocabulaire qui est utilisé dans tous les établissements scolaires en France, les termes existants qui sont correspondants déjà votre thésaurus, il y a certainement des manques, parce que le vôtre va assez loin quand même, dans la profondeur. Il est déjà très spécialisé.
Non, il n'est pas très spécialisé, c'est-à-dire qu'il est généraliste et il va dans un degré de détail assez important.
Oui, c'est ça.
Mais oui, et puis je vous dis, on peut parfaitement changer les termes aussi, parce qu'il y en a certains.
Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu dommage quelquefois qu'il y ait une méconnaissance
en fait,
des mondes.
Exactement.
Qu'on ne sache pas que ce thésaurus est nationalement utilisé dans tous les établissements scolaires, les CRDP, les IUFM, pratiquement. Il y a peu qui utilisent Rameau, qui est utilisé en BU. Et c'est un petit peu dommage.
Oui, tout à fait. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord.
Oui. Ouais.
Je suis tout à fait d'accord. C'est clair. Refaire. Ceci dit, je ne suis pas sûre que la perspective soit tout à fait la même non plus. Mais ce serait très intéressant de comparer. Mais ça, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour. Alors, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui se sont posées, et à côté des nombres de niveaux, à côté des nombres de descripteurs, il y a le fait que les sciences de la vie ne sont pas une discipline isolée. Les sciences... Oh, pardon. Vous vouliez dire quelque chose?
mais c'est pas grave, je comprendrai peut-être après. Bon, moi je travaille aussi dans l'éducation nationale et on utilise un thésaurus qui est un thésaurus général, très général, qui est Mobis. Mais je crois que la question qui se pose là, c'est effectivement pour les thésaurus, la spécificité des disciplines et en plus l'évolution des connaissances. Parce que vous parliez très justement de l'évolution de la notion de classification en biologie. Certains thésaurus restent, n'ont pas intégré les évolutions, les modèles actuels qui sont proposés. Et donc, c'est vrai que les utilisateurs, du coup, sont confrontés à des arborescences, à des classifications qui ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'il y a, une vraie question derrière cela, qui est aussi celle de l'évolution. Alors, par exemple, pour Mobis, qui est un thésaurus général, de l'évolution de ces thésaurus, de la façon dont ils intègrent les connaissances, les disciplines scientifiques en particulier, les modèles qui évoluent, et leur rapport à des thésaurus très spécifiques comme celui que vous construisez. Parce que je crois qu'un thésaurus, c'est pas indépendant de, ben, de l'état des connaissances, de voire de certaines idéologies, enfin, etc. Hein.
Oui, de l'idée, enfin, de l'analyse qu'on fait de la discipline à un moment donné aussi.
Oui. Tout à fait. Un thésaurus, c'est une classification, mais c'est bien une conception anglo-saxonne de la division du savoir. Et celui qui utilise Dewey pour faire créer des indices, par exemple en philosophie, s'arrache un tout petit peu les cheveux, par exemple, hein, ou bien la conception qu'on a de la section religion, hein, de la place accordée à certaines. Bon, c'est vrai que c'est une conception, mais ça doit être tout à fait, enfin, c'est des langages qui doivent absolument coller à l'évolution des connaissances, et je pense qu'ils se complètent. Par exemple, un généraliste, il est forcément doit être complété par ce que vous êtes en train de mettre en place.
Le thésaurus en question, il a aussi la volonté d'être relativement généraliste au départ. Dire les premiers niveaux, les premiers degrés de ramification sont d'ordre général. Mais je pense que c'est intéressant de faire la comparaison, de tester la compatibilité et éventuellement de mettre en place des systèmes de conversion, de correspondance. Tout à fait, des passerelles, ça doit être possible du point de vue informatique sans difficulté. Et l'autre question qui se pose, c'est que les sciences de la vie ne sont pas une discipline complètement indépendante. Il y a des interfaces entre les sciences de la vie et d'autres disciplines, en particulier les sciences de la Terre, mais pas exclusivement les sciences de la Terre. Si on considère la paléontologie qui étudie les organismes fossiles et éventuellement un petit peu leur évolution, si on considère l'environnement avec l'hydrosphère, l'atmosphère, etc., tout ça sont des thèmes qui sont abordés du point de vue des sciences de la vie d'une part et du point de vue des sciences de la Terre d'autre part. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir comment articuler finalement un thésaurus disciplinaire relatif aux sciences de la vie avec un thésaurus disciplinaire relatif aux sciences de la Terre sur les thèmes qui sont des thèmes communs finalement. Donc cette question-là, on l'a posée aussi, on ne l'a pas encore résolue par contre. Mais peut-être qu'on la résoudra un jour. Alors, vous allez voir que quand on a construit ce thésaurus, on a eu un certain nombre de critiques qui ne vont pas toutes dans le même sens, mais qui concernent un petit peu toujours la même chose, c'est la précision du thésaurus. Dire que pour certains, le nombre de niveaux est trop élevé. Deux niveaux, c'est largement suffisant pour indexer des ressources. Le seul problème, c'est que dans ce cas-là, soit le thésaurus n'est pas très précis, soit le thésaurus est relativement précis, mais avec ces deux niveaux, il est dédié à une utilisation qui, elle, est extrêmement bien précise. Extrêmement. Par exemple, on peut imaginer, on fait un thésaurus à deux niveaux qui colle au programme de lycée. Voilà. ça ira très bien. Sauf que quand le programme change, il faut changer de thésaurus, parce que du coup, il ne fonctionne plus. Donc, le nombre de niveaux est trop élevé. Et puis, alors, vous avez, à l'inverse, le nombre de niveaux est trop limité. Le nombre de niveaux est trop limité, ça, c'est une remarque qui émane de personnes qui travaillent sur un sujet assez précis et qui veulent indexer de la façon la plus précise leurs documents. Donc, elles ont des mots-clés qu'elles veulent impérativement retrouver dans le thésaurus. Alors ça, ça donne des choses comme ça. On va dans les fonctions de relation. Voilà, ça donne 10 niveaux successifs de subdivision quand on les écoute. De fait, là, on a un thésaurus qui est précis, mais qui est inutilisable par un non-spécialiste de la question. Oui, mais quand on arrive en 4 niveaux à cellules, c'est quelque chose qui va bien. Si on peut dérouler une liste de cellules après, ça va bien. Hein? Là, les derniers, les systèmes optiques, les trajets, les types cellulaires, les choses comme ça, sont à 10 niveaux successifs. Et ça, c'est un problème qui nous a été posé, je vous dis, par des spécialistes qui voulaient indexer leurs documents, développer une branche de façon extrême. On l'a fait et on a vu ce que ça donne. Eux sont très contents, je ne suis pas sûre que les autres le soient. Et de fait, on imagine que si chaque spécialiste disciplinaire demande la même chose, on obtient un outil qui n'est pas, qui n'est vraiment pas utile. Donc l'idée, c'est de continuer à travailler pour simplifier, pour diminuer le nombre de niveaux, et éventuellement avec les listes de vocabulaire pour compléter les choses. Et puis, on a eu droit aussi à une critique qui disait « Oui, mais moi, je ne trouve pas dans votre thésaurus le vocabulaire qui me convient. Il me manque un certain nombre de descripteurs. Et puis, les descripteurs qui sont utiles, ils sont au 4e niveau, c'est trop loin. » Là, c'était encore une fois un cas très précis. C'est une personne qui veut indexer des fiches bibliographiques faites par les étudiants. Donc, un travail bibliographique, une synthèse bibliographique avec ses étudiants. Et les synthèses sont indexées. Elles portent sur les virus. Et ça se fait au niveau licence master. Donc, trouve pas ces descripteurs dans le thésaurus que nous avons fait. Dans ce cas précis, ce qu'on a proposé, c'est effectivement de construire une classification accessoire spécifique des virus, puisqu'on va de toute façon faire une classification des êtres vivants, on va faire une classification à côté des virus, et puis on va peut-être envisager de créer des fiches de base pour cette utilisation-là, fiches de base dans laquelle vont figurer tous les éléments de départ de la classification pour qu'il arrive à son terme virus. Donc, il n'y aura plus qu'à renseigner ce qui va après. Enfin, un modèle de base, en fait, de métadonnées qui lui permettra de travailler. En gros, vous l'aurez compris, hein, c'est la précision, le nombre de niveaux qui pose vraiment un gros problème. Ceci dit, on aurait pu s'en douter le jour où on nous a demandé de construire un thésaurus pour généraliste et pour spécialiste. On aurait pu se douter que c'était un petit peu la quadrature du cercle. Ceci dit, on a peut-être une solution qui permettra d'atténuer le problème lié au nombre de niveaux, c'est le développement d'un système qui permette de faire, pas de l'indexation automatique, on ne va pas dire ça, qui permette d'enregistrer automatiquement tous les descripteurs d'un niveau supérieur au descripteur entré par la personne, choisi par la personne manuellement.
Assez scientifique. Et qui débouchait sur des choses très simples comme le nerf optique. Enfin, sauf oui, très oui. simple. Vous voyez ce que oui, je veux oui, dire oui. Au point de vue de l'expression. Et dans les thésaurus, en principe, on appelle ça justement des descripteurs passerelles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas employés pour l'indexation. Ce sont des faux descripteurs et non pas des non-descripteurs. Hein. Mm-hmm. Et ce sont des mots passerelles qui permettent d'aller jusqu'au terme. C'est simplement pour expliquer les chaînons.
Oui, oui,
le chaînage sémantique.
Et c'est ce que je disais, moi, remplacer ce genre de choses par des listes de vocabulaire, ça peut peut-être alléger, en quelque sorte. Mais oui, je suis d'accord. C'était vraiment une vision hiérarchisée de ce secteur disciplinaire.
Tous les mots qui étaient un petit peu vers la fin de votre arborescence, par exemple, ils doivent être très probablement dans ce thésaurus-là utilisé, parce que c'est des notions qui sont évidemment enseignées aux élèves. Voilà.
Oui, oui, tout à fait.
Donc ils doivent y être, là, tous ces mots-là.
Oui. Et bon, je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire, mais je pense que la multiplication des niveaux est moins un problème avec le système automatique. D'index, enfin le système qui permet, on choisit un mot-clé et automatiquement toute la liste des mots-clés en amont est entrée. Ça va être déjà une solution. Ensuite, je pense qu'il va falloir homogénéiser un petit peu ce qui se passe effectivement au niveau extrême. Dire que si vous avez des mots comme des termes comme nerf optique, qu'on choisit de mettre toute la liste de cellules dans une liste de vocabulaire, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas de même avec le nerf optique. Voilà. Donc il y a une homogénéité à mettre en place. Et puis, bon, pour en terminer avec ces critiques, il y avait aussi des critiques de fond sur l'architecture du thésaurus elle-même. Il y a des endroits où des spécialistes disciplinaires nous ont dit « Attention, là, ce n'est pas la bonne vision de la discipline que vous avez rendue. Maintenant, on ne pense plus comme ça. » Et donc on a changé, effectivement. Et c'est pour ça que ça a donné, à la place d'objets biologiques, des noms de sous-disciplines. Les écologies comportementales, etc. C'est parce que ce sont des spécialistes qui nous ont demandé de modifier notre système. Bon, la conclusion de cette affaire, c'est que, bon, on a encore beaucoup de travail, c'est sûr, mais qu'on a quand même déjà un système qui nous permet d'indexer efficacement dans différents contextes, qui, à mon avis, c'est satisfaisant, présente une classification thématique actualisée, un petit peu originale des sciences de la vie, et qui, dans son contexte d'indexation informatisée, permet de faire des relations, comme dans tout thésaurus, entre les différents descripteurs des différentes branches, relations qui ne sont pas, par contre, nommées. Cela dit, comme je disais, cette affaire n'est pas terminée. Il y a toute une série de choses à faire encore. Alors, des choses qu'on n'a pas évoquées, des choses qu'on a déjà évoquées. Il y a deux directions principales de travail. La première, c'est l'accompagnement du thésaurus. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt à développer une documentation qui permette aux utilisateurs d'utiliser efficacement le thésaurus en question. Cette documentation, elle doit en particulier expliquer les choix qui ont été faits et la philosophie du thésaurus. Définir les synonymes, ce que nous n'avons pas encore fait non plus, et le développement des listes de vocabulaire associées qu'on a déjà évoquées. Et puis pour le thésaurus lui-même, il y a sans doute encore des améliorations à porter pour un certain nombre de descripteurs. Je pense que tous les descripteurs qui sont disciplinaires, on peut essayer de voir si on peut les remplacer par des choses qui sont davantage relatives à l'objet biologique pour préserver l'harmonie de l'ensemble, l'homogénéité de l'ensemble. Réfléchir aux interfaces avec les autres thésaurus disciplinaires, hein, les frontières. Et puis alors voir ce qu'on fait quand on a affaire à des besoins qui sont très précis. Comme je vous parlais tout à l'heure de l'indexation des fiches bibliographiques sur les virus, la question qui se pose réellement, c'est est-ce que on essaye d'indexer ces fiches en utilisant le thésaurus que nous avons construit, ou est-ce que quand on a des besoins très spécifiques, on fait autre chose? J'ai personnellement, je trouve qu'il serait dommage de ne pas utiliser le même thésaurus pour ces fiches comme pour le reste, parce que le fait d'utiliser un unique outil, ça facilite finalement après la recherche, le repérage, etc. Si effectivement on choisit d'intégrer ces aspects très spécifiques, la question qui se pose, c'est comment. Donc ça, c'est une réflexion sur les modalités de l'intégration des domaines précis. Et puis, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que Gérard a engagé maintenant, il vous a expliqué que la classification décimale de Dewey, c'était un pivot finalement de la norme l'homme-fr. Et donc, il y a tout un travail qui va être fait sur la correspondance entre le thésaurus que nous avons conçu et la classification décimale de Dewey, qui va permettre de développer finalement une vraie compatibilité. Ça, il faudra poser la question demain à la dame qui vous présentera la norme l'homme-fr. Oui, c'est parce qu'il y a de plus. Je ne sais pas. Il y a eu un groupe de travail, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est un fait. Et ceci dit, on peut peut-être intégrer la correspondance avec le Dewey, la correspondance avec les vocabulaires qui sont déjà utilisés dans l'éducation. Oui, tout à fait. Mais bon, là, c'est pareil, on est dans un contexte qui est peut-être pas non plus le contexte dans lequel les thésaurus ont été définis précisément au départ. Oui, mais malgré tout, ça laisse... Voilà, tout à fait. Mais comme ça permet des relations... Parce que ce qui différencie, de ce que j'ai compris, un thésaurus d'une classification, c'est la possibilité de faire des relations associatives. Donc comme ça reste possible grâce à l'outil informatique, finalement, c'est à la frontière entre les deux. Et c'était un petit peu difficile. Bon, c'est une question de vocabulaire, on revient à ça. Enfin bref, si d'aventure un jour vous vous lancez dans une opération de ce type-là, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est pour construire un thésaurus, vous avez tout intérêt à soigner la constitution du groupe de travail et les collaborations qui vont avec. Le groupe de travail doit être polyvalent, c'est essentiel. Pour ce qui concerne la procédure de construction, la définition des objectifs, c'est vraiment quelque chose d'important, même si c'est ce qui rend peut-être les choses difficiles après. L'examen de l'existence, c'est quelque chose d'important aussi. Ceci dit, sachez qu'il existe, dans l'état actuel, on a 4 classifications pour les sciences expérimentales, dont la biologie qui est en cours de développement, les sciences de la Terre, les sciences physiques et la chimie qui est en cours de développement aussi. Et puis, il ne faut pas hésiter à prendre le temps pendant la construction d'échanger fréquemment. Il ne faut pas être trop précis, pas trop se précipiter. Il faut se trouver des échéances à moyen terme, parce qu'à court terme, c'est quelque chose de difficile à faire. Et surtout, s'il y a une chose essentielle, c'est être bien conscient que le cycle de vie du thésaurus va comporter des versions successives. Et il faut bien penser aux évolutions, parce qu'il faut rendre les évolutions possibles. Et là, on a encore une fois une chance. C'est avec l'indexation informatisée, les évolutions sont finalement possibles et le système est assez souple. C'est pas difficile, du moins au départ, quand on n'a pas un nombre de métadonnées trop important, de changer un descripteur de remplacer un descripteur par un autre ou de changer la place d'un descripteur dans une arborescence. Donc ça, tant que le nombre de ressources indexées n'est pas très élevé, on peut le faire sans trop de difficultés. Après, ça doit être un petit peu plus difficile. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Je comprends pas pourquoi vous avez plus de...
Vous pouvez m'éjecter, s'il vous plaît.
Vous éjecter, c'est-à-dire
la clé.
Non, on a pas. Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous avez plus l'écran.
Mais c'est parce qu'il a bugué tout à l'heure. Oui, il est en ligne, mais c'est pas la dernière version qui est en ligne.
C'était pour montrer un exemple de ce qui se fait justement actuellement, si vous voulez, parce que moi j'enseigne dans un master web éditorial et un parcours professionnel d'implémentation de bibliothèque archive. Donc on est en plein.
Oui, tout à fait.
Et en même temps, c'était intéressant, je leur en fais fabriquer, mais de voir que quelque chose qui a déjà été fait aussi par d'autres.
Oui, oui.
Je parle des thésaurus qui existent. C'est dommage qu'on ne pouvait pas informer sur tout ce qui existe.
Mais en fait,
tous ces mots-là, je suis à part quelques-uns, ils sont dans ma liste.
Ah ben c'est tant mieux, comme ça la correspondance va être faite. Mais c'est un plein de thésaurus.
Ah oui.
En fait.
Il est en ligne.
Ben je le chercherai.
Oui, sur mobile.fr.
Je le chercherai, mais c'est pas. Alors, ça a l'avantage, ça a un avantage et ça a un inconvénient, on va dire. Parce que bon, c'est vrai qu'on avait. Il faut demander à Gérard pourquoi il a voulu absolument nous demander des thésaurus. Après, il avait sans doute une idée derrière la tête. Je dirais, effectivement, on n'a pas regardé suffisamment ce qui existait. L'inconvénient.
Je ne comprends pas pourquoi.